بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. Alors, dans cette vidéo, nous allons commenter le sermon du noble messager. Ce sermon-là qu'il a tenu à la veille du mois de Ramadan, à la fin du mois de Shaaban. Alors, heureux sont ceux-là qui ont pris la peine pendant le mois de Rajab, pendant le mois de Shaaban, de se préparer pour ce mois-là. On parle de préparation, pourquoi? Parce que celui-là qui aura pris la peine pendant le mois de Rajab, pendant le mois de Shaaban, de déjà commencer à s'habituer à de bonnes choses, à de bons actes, à un bon comportement, eh bien, pendant le mois de Ramadan, il aura beaucoup plus de facilité à profiter à fond du mois de Ramadan. Mais cela ne veut pas dire que cette personne-là, qui n'a pas eu la chance ou alors qui ne s'est pas préparé pendant ces deux mois-là, eh bien, il ne profitera pas du mois de Ramadan. Tout au contraire, il peut profiter encore plus, il peut se rattraper dans un sens pendant le mois de Ramadan. Mais pour celui-là qui aura pris la peine, pour celui-là qui aura pris la peine, avant le mois de Ramadan de se préparer, eh bien, il aura déjà ce qu'on va appeler un malaka, cette habitude-là. Vous savez, on dit souvent que l'habitude fait une seconde nature. Donc, ça veut tout simplement dire que quand on est habitué à faire quelque chose, eh bien, cela devient un peu comme une seconde nature, cela devient beaucoup plus facile. Prenons l'exemple de celui-là qui décide de commencer avec le qiyam al-layl, avec la salat al-layl, la prière de nuit, qui est principalement de 11h à 4, comme nous l'avions expliqué dans nos différents lives. Alors, pour celui-là qui commence au tout début, ne serait-ce que se lever sera tellement pénible pour cette personne-là. Ça, c'est au début. Mais au fur et à mesure qu'il va persister, eh bien, se lever va devenir beaucoup plus facile pour lui. Alors, après cela, même accomplir la prière en elle-même lui sera pénible au début. Mais avec le temps, eh bien, cela deviendra beaucoup plus facile. C'est un peu un misdaq de ce verset-là qui dit « Innama al-usri yusra » à côté de la difficulté, il y a la facilité. Alors, quand on persiste, quand on fournit des efforts, eh bien, cela nous devient après un temps beaucoup plus facile. C'est quelque chose qui est logique, qui est naturel, que tout le monde peut expérimenter. Donc, ce n'est pas un point de débat. Ce n'est pas un point que l'on a besoin de beaucoup argumenter. Alors, alhamdoulilah pour ceux-là qui auront pris la peine de se préparer déjà depuis le mois de Rajab. Alors, le sermon du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, il commence en disant « Ayyuhannas, oh vous les gens, oh vous les hommes, innahu qad aqbala ilaykum shahrullahi bil barakati wal rahmati » Alors, parfois on s'attardera sur le sens de certains mots arabes pour indiquer certains sens. Comme par exemple, ici au tout début, le noble messager dit « Innahu »« Inna » tufidu ta'akid. Donc, « Inna » c'est un « harf », on va dire entre guillemets par abus de langage, un mot qui lorsqu'il est utilisé, il indique en quelque sorte une confirmation. C'est une expression qui est utilisée du genre « certes, certainement, sans l'ombre d'un doute » pour confirmer une chose. Alors, lorsque le noble messager commence par disant « innahu »« innahu » et le « qad » qui vient après « litahqiq », ça vient aussi confirmer. C'est une double confirmation en réalité. Donc, c'est pour dire que ce qui va suivre, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucune zone d'ombre par rapport à cela. « Innahu qad aqbala ilaykum shahrullah » Donc, il n'y a aucun doute. Certainement, le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala est à vos portes. Avec quoi? Le mois d'Allah est à nos portes avec quoi? Avec principalement les barakat, les bénédictions. On n'a plus besoin de vous expliquer ce que c'est que les bénédictions d'Allah et comment peuvent se manifester les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala ou alors quels peuvent être les résultats lorsque dans nos vies, il y a la baraka. Lorsque dans nos vies, Allah subhanahu wa ta'ala déverse la baraka dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans notre mariage, que ce soit dans nos enfants, que ce soit dans nos projets, que ce soit dans nos vies globalement. Lorsqu'il y a de la baraka dans nos vies, eh bien, on n'a pas besoin d'un interprète pour savoir que véritablement, on a de la baraka dans notre vie. Et nous recherchons en réalité tous la baraka, ou bien ce n'est pas le cas. Alors, nous recherchons de la baraka, eh bien, le mois d'Allah est venu à nous, le mois d'Allah est à nos portes. Avec quoi? Premièrement, la baraka. On a tendance parfois à dire, je demande à Allah une subsistance sur laquelle il y a de la baraka, une progéniture dans laquelle il y a de la baraka, un travail dans lequel il y a de la baraka, etc. Quand on demande toujours une chose, on demande qu'il y ait de la baraka là-dessus, parce que quand il y a la baraka, eh bien, on est sûr que cette chose-là nous sera bénéfique. Alors, chers frères et sœurs, eh bien, voici le mois de la baraka qui est arrivé à nos portes. Voici le mois des bénédictions abondantes, des bénédictions que nous pouvons acquérir aussi facilement par rapport au mois précédent, par rapport aux autres mois. Eh bien, le mois de la baraka est à vos portes. Alors, allez-vous laisser ce mois de baraka-là vous échapper entre les mains? Allez-vous laisser ce mois de baraka-là et y prendre juste une minime partie de baraka? Ou alors, allez-vous vous lâcher, allez-vous faire des efforts pour puiser au max de baraka dans ce mois-là? Barakallahu fikoum. Alors, c'est un mois chargé de baraka. C'est un mois dans lequel la baraka est en abondance. Nous recherchons de la baraka, eh bien, voici le mois de la baraka. Un mois de baraka, un mois de rahma, de miséricorde. On a tendance à dire que, selon un enseignement, bien sûr, de l'islam, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, sur cette terre-ci, il est miséricordieux envers toutes ses créatures. C'est-à-dire que sa rahma wasi'at kulli shay. Donc, sa rahma a englobé toutes choses. Et en réalité, quand on essaie de méditer, comme nous le dit d'ailleurs le Coran al-Karim, « Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. » Eh bien, dans cette méditation-là, à laquelle nous appelle le Coran al-Karim, de méditer sur les signes, sur nos propres personnes, afin que nous puissions comprendre réellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la vérité, il est le seul Dieu unique. Alors, lorsqu'on essaie tout bonnement de méditer sur la création ou de méditer sur ces créatures-là que nous pouvons voir, prenons l'exemple des fourmis, comment ils se comportent, comment ils sont organisés, etc. C'est une rahma en soi. C'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis aux fourmis d'avoir cette organisation-là. Alors, la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe toutes choses et elle sera beaucoup plus spéciale le jour du jugement dernier pour les croyants, pour les musulmans, pour ceux-là qui auront œuvré en bien, pour ceux-là qui auront les critères éligibles pour profiter de quoi? De la rahma, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, nous avons à nos portes le mois de la miséricorde, le mois de la rahma. La rahma dont nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous en couvrir. La rahma dont nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de déverser sur nous le jour où, en fait, ni nos biens, ni nos enfants ne nous seront d'aucune utilité. Ce jour-là, on aura crucialement besoin de cette rahma-là. Eh bien, voici le mois de Ramadan qui vient avec de la rahma en abondance. Alors, allons-nous laisser ce mois-là s'échapper ainsi, avec son lot de rahma, ou alors allons-nous faire des efforts pour prendre au max de cette rahma-là? Barakallahu fikum. Wal maghfira. Que serions-nous sans le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Celui-là qui est le grand accueillant au repenti, celui-là qui accorde son pardon, eh bien, que serions-nous devenus si, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas ouvert cette porte-là? Parce que malheureusement, comme le dit le célèbre hadith, « Kullu ibn Adam khata » Si l'expression est bonne, si les alphases, je les ai bien respectées, mais toujours est-il que le sens est le suivant, « Tout fils d'Adam, tout descendant d'Adam est sujet à commettre des erreurs. Mais le meilleur d'entre vous, le meilleur d'entre eux, c'est qui? Ce sont les tawabin. Ce sont ceux-là qui se repentent, ce sont ceux-là qui demandent pardon. Alors voici un mois qui est à nos portes et qui est rempli, qui est chargé en abondance de maghfira, de pardon. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous pardonnait pas, eh bien, on aurait nos lots de péchés, nos lots d'erreurs, et on aurait à côté nos minimes petites bonnes actions que nous aurons eu la chance d'accomplir pendant notre bref séjour sur terre. Alors, ne serait-ce que seulement ces mauvaises actions-là auraient consumé ces minimes bonnes actions-là que l'on aurait eu la lucidité d'accomplir pendant notre bref séjour sur terre. Alors, mashallah, alhamdulillah, à travers sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert cette porte-là, qui est celle du tawba, qui est celle du istighfar, afin que nous puissions effacer nos mauvaises actions avec la demande de pardon. Et de telle enseigne que, avec ces minimes bonnes actions-là, que nous espérions à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous espérions qu'il puisse compenser ces bonnes actions-là, afin que nous puissions avoir notre ticket pour le paradis. Alors, voici le mois du maghfira. Et comme je l'ai dit tantôt et comme nous le verrons, eh bien, celui-là qui négligera le tawba, qui négligera le istighfar et sortira de ce mois-ci avec son lot de péchés sur son dos, eh bien, qu'il sache qu'il ne trouvera plus le pardon jusqu'au mois prochain. Ça veut dire que celui-là qui n'a pas réussi à avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois de Ramadan, eh bien, difficilement, il aura le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les autres mois. Pourquoi? Parce que le pardon pendant ce mois-ci est facilement accessible par rapport au pardon dans les autres mois. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé cette porte-là ouverte, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou dans les autres mois. Mais la facilité, l'accès à cette porte-là est beaucoup plus facile pendant le mois de Ramadan. Et c'est un peu pourquoi on dit souvent que le mois de Ramadan, eh bien, c'est une aubaine, c'est une occasion en or, c'est un mois de promotion que nous devrions profiter à fond pour avoir ces multiples mérites-là, ces multiples récompenses-là, parce que pendant les autres mois, il faudra fournir beaucoup plus d'efforts. Shahru huwa inda Allahi afdal shuhur wa ayyamuhu afdal ayyam wa layalihi afdal layali wa sa'atuhu afdal sa'at. Alors le noble messager continue en disant: un mois qui est meilleur auprès d'Allah que les autres mois. Et les jours de ce mois-là sont les meilleurs des jours. Et ces nuits sont les meilleures des nuits. Et bon, ces heures sont les meilleures des heures. Alors ici, arrêtons-nous un instant et méditons sur deux ou trois points. Le premier point, c'est que nous avons Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, celui-là qui a créé toutes choses, d'un côté. Nous avons ce qu'on va appeler meilleur, c'est-à-dire meilleur dans le sens littéraire du terme. Quand par exemple nous disons d'une chose qu'elle est meilleure, ça peut prendre plusieurs sens. Dans quel sens? Nous pouvons juger par exemple que telle chose est meilleure pour nous, mais pourtant nous n'avons pas la pleine connaissance de cette chose-là. Ou alors, ce sur quoi nous nous sommes basés pour dire que cette chose-là est meilleure, eh bien, c'est une aspiration mondaine. C'est-à-dire, c'est uniquement pour ce dunya que cette chose-là serait meilleure. Mais en réalité, est-ce qu'elle est meilleure pour nous? Parce que chaque chose qui est meilleure pour l'au-delà est meilleure pour ce bas monde-ci. C'est deux choses qui vont en réalité en paix. Que l'on ne vous leurre pas, que le shaitan et ses suppôts ne vous leurrent pas, qu'une chose peut être meilleure pour ce dunya-ci et mauvais pour l'au-delà. Non. Quand en réalité, réellement, au fond des choses, cette chose-là est bien pour ce bas monde, eh bien, elle est bien pour l'au-delà. Et toute chose qui est bien pour l'au-delà est bien pour le dunya automatiquement. Alors, parfois, quand on dit d'une chose qu'elle est meilleure, eh bien, parfois, l'aspect que l'on voit dans cette chose-là, eh bien, réellement, elle n'est pas bonne pour nous, elle n'est pas bénéfique pour nous. Et d'ailleurs, le Coran ou le Karim le dit, Asa an tuhibbu shay'an wa huwa karhun lakum wa asa an tukrihu shay'an wa huwa khayrun lakum. Dans ce sens-là, si je n'ai pas déformé les mots ou si je n'ai pas utilisé d'autres alphases. Alors, il se pourrait que vous aimiez une chose, mais qu'elle soit mauvaise pour vous. Et il se pourrait que vous détestiez une chose et qu'elle soit meilleure pour vous. Alors, pour soutenir ce que je viens de dire, parfois, dans notre vision, par rapport à un aspect, par rapport à une base, eh bien, on va dire que cette chose-là est bonne, cette chose-là est meilleure que cette chose-là. Et pourtant, en réalité, c'est peut-être le contraire ou peut-être en réalité, ce n'est rien en réalité. Ça veut dire que cette chose-là n'est pas meilleure. Ça, c'est dans notre cas parce que notre connaissance, elle est limitée. Notre clairvoyance, notre vision des choses, elle est limitée. Alors, qu'en sera-t-il quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala dont la connaissance couvre toutes choses? Alors, quand une chose réellement est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que toute autre chose, eh bien, ça prend tout son sens. C'est dans le sens clair du terme. Ça veut dire qu'en réalité, dans tous les sens du terme, eh bien, cette chose-là est meilleure. Pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais cette chose-là est meilleure pour nous. C'est nous qui sommes dans le besoin. C'est nous qui sommes pauvres. Allah huwa al-ghaniyul a'la. Antum al-fuqara indallah. Wallahu al-ghaniyul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala s'auto-suffit. Il n'a besoin de personne ni de rien. Mais c'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de toutes choses. Nous sommes des muhtajoun. Nous avons besoin. Alors, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que le mois de Ramadan est meilleur que les autres mois, eh bien, c'est pour nous en réalité que c'est meilleur. C'est un mois qui est chargé de beaucoup de bonnes choses pour nous, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que les jours, les nuits de ce mois-là sont meilleurs pour nous, les heures de ce mois-là sont meilleures pour nous. Alors, avec l'appréciation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que parfois à notre petit niveau, on peut dire c'est meilleur et tout. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de sa connaissance, a indiqué clairement afin que cela puisse nous galvaniser, que ce mois-là est meilleur que les autres mois. Et d'ailleurs, dans ce mois-là, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Qui est meilleure que 1000 mois. On n'a pas dit que cette nuit-là est égale à 1000 mois, mais elle est meilleure que 1000 mois. Meilleure, on a 1000 mois à ce niveau-ci. Quand on dit d'une chose qu'elle est meilleure que 1000 mois, ça ne veut pas dire que elle est en quelque sorte égale à cette chose-là. Elle est meilleure, ça veut dire qu'elle est supérieure à cette chose-là. Alors, supérieure à puissance N, on ne sait pas. C'est pour, une fois de plus, souligner l'importance, le rang élevé, le degré élevé de ce mois-là, de ces nuits, de ces jours et de ces heures-là. Tout ceci pour nous attirer à une réalité, chers frères et sœurs, c'est à comment allons-nous passer notre mois de Ramadan? Comment allons-nous exploiter notre mois de Ramadan? Comment allons-nous investir ce temps-là? J'ai pour habitude de le dire en me basant sur ce hadith d'Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ad-dunya souqun. Rabiha qawmun wa khasira al-akharun. Ce bas monde était le marché. Et dans ce marché-là, il y a des gens qui feront des bénéfices dans leur commerce, dans leur négoce. Et il y a des personnes qui perdront. Alors, quel est notre fonds de commerce? Parce que dans chaque marché, dans chaque commerce, eh bien, il y a un fonds de commerce. Ou à la limite, il y a une somme d'argent avec laquelle nous allons effectuer des achats. Alors, quel est ce fonds de commerce-là? Eh bien, c'est le temps. Le temps est notre fonds de commerce. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, réfléchis mûrement sur quoi est-ce que tu investis ton temps. Sur quoi est-ce que tu investis ton fonds de commerce? Car au fur et à mesure que le temps s'écoule, il ne reviendra pas. Tu ne pourras pas rattraper ce temps-là qui passe. Mais tu peux profiter de ce temps-là qui s'écoule en œuvrant en bien, en exploitant ce temps-là dans le sens positif. C'est la raison pour laquelle dans la sourate Al-Asr, il est dit « Wal Asr » par le temps « Inna l'insana la fi khus » L'être humain est en perdition. L'être humain est dans la perdition. Pourquoi? Parce que son temps ne fait que s'écouler. Que vous soyez dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou alors l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le temps n'en a rien à faire de nous. C'est-à-dire qu'il continue à s'écouler, il continue à passer. C'est à toi de mieux user de ton temps, c'est à toi de mieux user de ces minutes-là, de ces secondes-là, de ces heures-là de ton temps, de ces jours-là, de ces nuits-là, de ces mois-là, de ces années-là de ton temps qui sont en train de s'écouler. C'est un peu comme un robinet que l'on ouvre en abondance, qui coule en abondance. Et arrivera un moment où, eh bien, votre temps imparti finira et vous allez en quelque sorte quitter ce bas monde-là. Donc, exploiter notre temps, c'est bien user de ce fonds de commerce-là, c'est de l'investir dans ce qui est bien, c'est de l'investir dans ce qui nous sera bénéfique le jour du jugement dernier. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.